Il est né de la cuisse de Jupiter, de Zeus, chez les Grecs. Lui, c'est Dionysos, le dieu de la fête, du vin, du théâtre. Jean-Pierre Vernon, professeur honoraire au Collège de France, spécialiste de la mythologie grecque, nous raconte l'arrivée à Thèbes de Dionysos, flanqué de son cortège de femmes en folie.
Le panthéon grec, Jean-Pierre Vernon, c'est une manière de penser le monde et de penser les grandes forces qui s'y manifestent. Or, l'une de ces grandes forces, c'est la folie, l'occasion pour nous de parler d'un dieu très à part, Dionysos. De quoi est-il le dieu ?
Vous avez raison, parce que Dionysos, on ne peut pas dire qu'il est le dieu de quelque chose. Il est un dieu à part, vous l'avez dit, pas comme les autres du tout. C'est pas par hasard que Louis Gernet dit que Dionysos, dans le panthéon grec, c'est la figure de l'autre.
Louis Gernet, votre maître.
Louis Gernet, mon maître, et pas seulement mon maître, très grand helléniste, très grand historien de la religion, du droit, de l'économie et de tout.
Et Dionysos, c'est l'autre.
Dionysos, c'est la figure de l'autre. Ça veut dire que dans un monde grec où les divinités elles-mêmes s'insèrent dans un certain ordre, lui, il n'incarne pas le désordre comme les bêtes monstrueuses dont nous avons parlé. Il incarne toujours l'ailleurs. C'est un dieu qu'on ne peut pas localiser. Il est de nulle part. Il est né à Thèbes, nous le verrons. Mais c'est un dieu en même temps de l'errance. C'est un dieu vagabond. Et il arrive dans les villes comme une maladie, comme une épidémie. D'Étienne dit que le dionysisme et le dieu, c'est un dieu épidémique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand il arrive dans une région, dans une cité, comme une maladie qui se répand, les femmes vont être prises d'un délire dionysiaque. Dieu, l'idéal grec, c'est la sophrosyné, le bon sens, la contrôle de soi, la raison,
maîtrise.
Le juste milieu. Et lui, et sa religion, ça va être une culture, d'une certaine façon, de la folie, de la mania. Il y a des formes différentes de délire. Il y a ce délire du guerrier. Il y a un délire peut-être qui est lorsqu'on est possédé par une passion sexuelle. Et puis il y a un délire particulier qui est ce délire religieux, encadré, en groupe, ou quoi ? Où le dieu, au lieu d'être simplement celui vers lequel on va en grande caravane apporter des dons, faire des sacrifices, c'est un dieu beaucoup plus proche de vous, qui en quelque sorte vous chevauche. C'est un dieu qui prend possession de vous, et une fois qu'il est sur vous, comme à cheval sur vous, il vous fait danser une danse qui est une danse de folie. Quand vous avez, c'est pour ça que ça c'est un trait plus particulièrement féminin, et c'est pourquoi ce dieu masculin est en même temps un dieu habillé en femme, avec les cheveux longs, il a une allure féminine, et il est spécialement respecté, et aussi spécialement l'objet d'un culte, dans des groupes féminins, qu'on appelle des thias. Et jusqu'à l'époque, même hellénistique, Plutarque raconte qu'allant à Delphes, il a rencontré, sur le chemin qui va d'Athènes à Delphes, un thias officiel, délégation d'Athènes, de femmes athéniennes, de matrones, de mères de famille, qui s'en vont à pied dans la campagne. C'est un dieu hivernal, donc c'est il neige. Et elles vont sur le chemin dans une espèce de délire extatique. Et elles arrivent jusqu'à un village où elles s'endorment à même le sol dans la neige et où elles se réveillent le matin dans le froid. Les matrones athéniennes, les matrones pleines de dignité. Il y a ça, il est le dieu aussi, le seul dieu grec peut-être, à la fois masculin et féminin, à la fois errant, mais voulant être reconnu, avoir son culte officiel dans chaque grande ville. Il est en même temps le seul dieu grec peut-être, dont on peut dire qu'il fait penser à un dieu indien, un dieu pas de la magie, de la Maya. Pourquoi ?
Qu'est-ce que c'est que la Maya ?
La Maya, c'est le fait de les apparences multiples. Le fait que Dionysos dans ses aventures. Par exemple, les Ménades, elles vivent dans un monde qui est autre que le monde réel dans lequel elles se trouvent. Elles vivent dans un monde où, elles, si elles ont vraiment le culte de Dionysos, c'est le bonheur, c'est l'âge d'or retrouvé. Elles sont réconciliées avec les bêtes sauvages. Le miel jaillit du sol avec le lait et le vin. C'est un monde enchanté. Mais, apparence, il est tellement ce monde de des apparences où on ne sait plus où est le réel, on ne sait plus où est l'illusion, où est le délire, où est l'hallucination. Il est hallucinatoire, d'une certaine façon.
Les Ménades, ce sont les Bacchantes, ce sont ces femmes.
Les Ménades, ce sont ces femmes qui, justement, sont prises par la mania.
Sont possédées.
Dans le Thias, sont possédées par le dieu. Et c'est un dieu, non seulement de tout cela et de l'illusion, c'est le dieu du théâtre. C'est le dieu qui préside au théâtre.
C'est le dieu de la vigne aussi.
C'est le dieu de la vigne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui, dans la vie humaine quotidienne, apparaît d'une certaine façon comme excentrique, comme une façon de se démarquer de l'ennui, de la régularité, de la juste mesure, que ce soit après le banquet, après qu'on a bu ce qu'on appelle le komos, c'est-à-dire que les participants au banquet, souvent en s'habillant d'une façon un peu particulière, un peu féminine ou un peu asiatique, et titubant, sortent en chantant, en faisant un peu le contraire de ce qu'il est bien séant de faire, le komos après boire, le vin. Non pas bu n'importe comment, il ne s'agit pas d'être des ivrognes, mais d'obtenir cette espèce d'état un peu exalté où justement le réel est tout prêt à basculer vers l'illusoire, où quand on regarde les choses et les gens, on ne les voit pas dans leur aspect ordinaire. Il y a quelque chose par derrière ou à côté qui fait qu'on les voit autrement, autrement. Alors il est ça, il est le banquet, il est aussi le théâtre, l'illusion théâtrale. Il n'y a pas un théâtre antique en Grèce et même ensuite dans le monde gréco-romain sans qu'au centre de l'hémisphère, il y ait un fauteuil qui est le fauteuil du prêtre de Dionysos. Et à Athènes, lorsqu'on construit le grand théâtre pour les grandes Dionysies urbaines, en fait d'hiver, il y a aussi le temple et une statue de Dionysos. Il est le dieu de l'illusion théâtrale. Il est le dieu du plaisir du vin. Il n'est pas un dieu. Par exemple, il est toujours présenté avec des Ménades, en état de possession. Elles dansent, elles ont la tête en arrière, elles crient « Voyez, voyez !» Dans un état, elles sont hors d'elles-mêmes.
C'est le dieu de la transe.
C'est le dieu de la transe. Et en même temps, dans cette transe qui a lieu souvent, non pas en pleine ville, mais dans le monde sauvage, il y a des satyres qui sont là. Il y a des satyres qui sont en état d'érection. Donc, le problème de la sexualité est présent, mais jamais Dionysos n'est présenté, lui, dans cet état. Hermès, beaucoup d'autres, certains dieux masculins sont représentés en érection. Jamais Dionysos. Mais il a tout de même rapport un peu avec la sexualité. Pourquoi? Parce que à certaines fêtes de Dionysos, à Athènes par exemple, il y a des grands chars avec des gens déguisés en satyres qui tirent le char. Et dans ce char, il y a une espèce de sexe masculin immense, beaucoup plus grand qu'un homme, avec des ficelles qui permettent de le faire lever et monter. On a des représentations de ça sur les vases. Le phallos. Il y a un rapport entre Dionysos et le phallos. Il n'est pas un dieu phallique. Qu'est-ce que ça veut dire, je crois, moi? Il n'est pas un dieu de la sexualité. Il est un dieu de ce qui est autre et du délire. Et il peut y avoir, dans la sexualité, dans l'espèce de passion érotique qui saisit quelqu'un, dans la fureur qui est un des aspects de la sexualité, ce dont on n'est absolument pas maître, et où je dirais que votre sexe est comme une partie qui est étrangère à votre contrôle, que vous n'y pouvez rien, c'est comme ça, il marche tout seul, si j'ose dire. Alors, d'une certaine façon, ça aussi, il y a une proximité avec Dionysos. Donc c'est un dieu pas banal, hein, c'est un dieu pas banal, et son histoire n'est pas banale.
Il est né deux fois.
Il est né deux fois, il est né deux fois puisque il est le fils de Zeus, qui a une histoire amoureuse assez longue avec une des filles de Cadmos.
Sémélé.
Et Sémélé a une grande passion, elle aussi. Elle est prise d'une sorte de folie amoureuse, parce que Zeus s'unit avec elle déjà depuis de longues nuits. Mais c'est pas suffisant, elle veut plus, elle veut voir Zeus en personne,
dans
tout son éclat, dans sa splendeur. Insatisfaction simplement de l'amour ordinaire. On veut aller au-delà, on veut voir l'autre divin, ce qui dans le divin est complètement autre que nous. Et en effet, elle le voit parce qu'il cède, et donc elle est déjà enceinte, on croit de 6 mois, dit-on, quand il vient, et cédant à sa prière, il se montre dans sa splendeur de Zeus, maître du tonnerre. Et naturellement, elle ne supporte pas cette vue, elle est embrasée par l'éclat divin, et par conséquent, à ce moment-là, Zeus ouvre le ventre de Sémélé, sort le petit Dionysos fœtus qui a 6 mois, et se le coud dans la cuisse. Donc il est né d'une part dans l'utérus de sa mère et dans la cuisse, dans le fémur de son père. D'où l'expression « être né de la cuisse de Jupiter ». C'est la cuisse de Zeus pour nous grecs. Ce dieu pas comme les autres, il est né à Thèbes. Et cette Thèbes, dans une des pièces de Ripide qui s'appelle les Bacchantes, montre le retour du dieu chez lui. Il est né à Thèbes, pourquoi ? Parce que c'est lié à l'histoire de Cadmos. Cadmos, c'est le fils d'Agénor, qui est un roi asiatique, si je peux dire, de Tyre ou de Sidon. Il a une fille qui s'appelle Europe, et beaucoup de frères et de sœurs. Et cette Europe, elle est avec un groupe de jeunes filles sur le rivage, en train de se baigner, lorsque Zeus la voit, c'est toujours la même histoire, et il prend la forme d'un très beau taureau blanc, et il vient s'accroupir devant la jeune fille, qui lui caresse un peu l'encolure, il tourne la tête, il l'allège peut-être, elle monte dessus, elle prend les cornes, hop, il s'enlève, et il traverse la mer, il arrive en Crète, et il dépose là Europe. Et alors qu'est-ce qui se passe? C'est que cet Agénor, le roi de Tyre et de Sidon, dit il faut retrouver ma fille absolument. Et tous les enfants, et en particulier Cadmos, sont envoyés à la recherche. Donc tout d'un coup, ces gens vont devenir des errants, des voyageurs, des étrangers qui vont partout. Je passe sur les détails. Cadmos est avec sa mère meurt en Thrace, il va à l'oracle de Delphes, qu'est-ce que je dois faire? Et on lui dit, tu dois suivre une vache, aussi splendide avec des signes lunaires, et là où elle s'arrête, tu fondes une cité. Europe a été enlevée par un taureau, et lui, de nouveau, le voyageur, le vagabond, l'homme de partout, il arrive et suit cette vache, elle s'arrête, et alors il est là avec une troupe de jeunes gens. Il veut faire un sacrifice à Athéna avant de fonder la cité. Il arrive, il faut de l'eau pour faire cela, mais il y a une source, et là, il y a un dragon épouvantable qui est le fils d'Arès. Finalement, il est obligé de tuer ce dragon pour prendre de l'eau, et avec les dents du dragon, dans une plaine bien plate, il sème ses dents du dragon comme on sème du blé, et de chaque dent surgit un guerrier en armes, déjà adulte, des brutes, disons, que la terre de Thèbes a produite d'elle-même. Ils ont vraiment à leurs pieds, à leurs sandales, le sol, la boue, la terre du pays. Ils sont nés du sol. Et ce sont des guerriers purs, des brutes, des violents, des fils d'Arès, d'une certaine façon.
Le dieu de la guerre.
Oui, le dieu de la guerre. Alors, ils voient ça, ils s'inquiètent. Ils voient qu'ils sont prêts à se battre, ils se jettent des regards farouches entre eux, et ils jettent une pierre au milieu d'eux. Alors cette pierre attaque l'un, qui croit que c'est son voisin qui lui a envoyé, et commence à se battre entre eux, la discorde hérisse. Et il en reste seulement 4 ou 5, qu'on va appeler, qui vont être les chefs des grandes familles aristocratiques de Thèbes, et qu'on appelle les semés, les spartoïs. Les semés parce qu'ils sont nés du sol. Alors, Bon, Cadmos, après, il est puni par Arès, mais finalement, en grande pompe, les dieux décident de récompenser cet errant qui est venu là et qui s'est fixé. Et c'est les noces à la citadelle de Thèbes, les noces de Cadmos avec Harmonie, que les dieux offrent en épouse. Et qui est cette Harmonie? Elle est la fille d'Arès, précisément. Le délire de la violence guerrière et d'Aphrodite, l'amour, mais aussi le délire de la passion amoureuse. Alors bien entendu, ils s'opposent comme le noir et le blanc, comme la querelle à l'accord. Ce que nous avons vu déjà dans nos premières réflexions. Mais bon, je dirais même que, en même temps, il y a dans chacun une ambiguïté, parce que Arès, c'est la guerre, il y a un aspect de démence et de violence que dans le dionysisme même on peut retrouver. Et puis chez Aphrodite, c'est l'Aphrodite d'or, elle est toute harmonie, toute beauté, mais il y a une autre Aphrodite qu'on appelle Mélaïnis, l'Aphrodite noire, et c'est cette Aphrodite de la passion amoureuse qui, quand elle est contrariée, aboutit à un délire de l'esprit et, par des machinations, par des poisons, essaye de s'en tirer. M'aider, c'est aussi l'Aphrodite noire. Donc, c'est compliqué. Alors, il y a une série d'enfants. Il y a Cadmos qui va avoir plusieurs enfants, plusieurs filles, et en particulier, il y a une fille qui s'appelle Cébélé, qui est la fille par conséquent de Cadmos et d'Harmonie, et qui a eu aussi ce délire de vouloir, dans la passion amoureuse, que Zeus soit tout à elle. Et c'est elle qui devient tout entier feu et cendre. Alors Dionysos va naître, il est poursuivi par l'hostilité d'Héra, qui n'est jamais très contente de voir les produits des amours fautives de son mari. Il lui arrive beaucoup de mésaventures, c'est un dieu qui en même temps est menacé. Quand il est jeune, tout à fait dans sa jeunesse, il est imberbe, il est en Thrace, et il y a, avec quelques bacchantes ou quelques ménades, et le roi met les ménades en prison et poursuit Dionysos avec un poignard. Il a une frousse épouvantable, il se sauve, et il échappe à Lycurgue qu'en sautant dans l'eau. Et là, dans l'eau, c'est Thétis, la mère d'Achille, qui le recueille, qui le cache, qui le camoufle. Il est donc un dieu comme ça, à la fois très puissant, très dangereux, mais qui peut être aussi très froussard devant une certaine forme de violence. Il part en Asie et finalement il décide de revenir chez lui à Thèbes.
En fait, c'est un grand mélange entre l'étranger et l'autochtone.
Oui, il y a cela. Il est... Toute l'histoire de Thèbes, d'une certaine façon, disons, est un drame où il y a à la fois l'étranger et l'autochtone, où il y a le proche, l'autochtone, et les lointains, où il y a le même et l'autre. Quand il arrive à Thèbes, et l'histoire que raconte Euripide dans les Bacchantes, elle est, je crois, pour nous, pleine de sens. Pourquoi? Il arrive, Dionysos, c'est Dionysos en personne, mais il fait comme s'il était le prêtre de Dionysos.
Il se déguise
en prêtre de ce qu'il est, de son dieu. Et il est entouré avec une bande de femmes qui sont des femmes lydiennes, des asiatiques. Alors il faut voir comment elles sont vêtues. Lui-même, il est vêtu pas du tout comme un grec. Il a ses cheveux, ils ne sont pas ramassés.
C'est à la fois le métèque, le gourou.
Il est le métèque, il est le gourou, il est le type efféminé. Tout ce que un grec bon teint, bon chic, bon genre, doit détester. Et puis il y a ces femmes lydiennes, elles envahissent les rues de Thèbes, elles font un bruit épouvantable, elles chantent, elles ont des cymbales, elles font du bruit, de la flûte, et elles dorment même les rues. Donc le cousin, le fils d'une des filles de Cadmos, et qui est le roi Pinté, et qui lui va représenter, disons,
la norme
et la morgue de la norme, c'est-à-dire il est le grec, il est l'homme de Thèbes. Agave a épousé un de ses né de la terre, un de ses sommets, un de ces individus comme ça violents, cette race de guerriers, de brutalité, Hétion. Il a donc lui une double naissance. Il a un côté vers Cadmos, le pinté, mais il a un côté aussi vers Hétion, la brutalité. Alors ça donne quoi? Ça donne un type sûr de lui, ou qui fait semblant de l'être, qui considère que les femmes, c'est rien du tout, c'est de la crotte de bique, elles sont faites pour être à la maison, élever leurs enfants, faire la cuisine et ne pas s'occuper du reste.
Tout ce qui n'est pas grec est barbare, pour
tout pointer. Ce qui n'est pas grec est barbare, et d'autre part, ces femmes qui se promènent dans les rues, alors que les rues, c'est le domaine masculin, les femmes sont dans la maison, à l'intérieur, leur habit, la façon de manger, leur façon de chanter, ce délire, et puis cet être qu'elles révèrent, et qui doit voir comme une espèce d'inverti, et de, en même temps de gourou, mais d'escroc, mais qui en même temps l'inquiète. Alors il décide que ça va cesser. Mais entre-temps...
Face à face, Pinté et Dionysos, donc.
Oui, face à face, Pinté, face à face, le même et l'autre. L'homme du coin, qui a la terre à ses souliers et à ses pieds, et l'homme qui a vagabondé, l'homme de l'ailleurs. De l'ailleurs et de partout, d'une certaine façon. De cet endroit et de partout en même temps. Alors, ça va être d'une certaine façon le conflit de ça qui est mis en scène dans les Bacchantes. Qu'est-ce qui se passe? C'est que, bien entendu, comme il est arrivé avec sa troupe de ménades, qui, elles, vivent dans une espèce d'état extatique de bonheur, d'âge d'or retrouvé, les dieux, les hommes, les bêtes, tout ça est mélangé dans une sorte d'idylle merveilleuse. Mais les femmes d'Athènes, les femmes de Thèbes, et surtout Agavé, la sœur de ces mêlées, et les autres sœurs, déclarent que...
Et la mère de Pinté.
La mère de Pinté déclare que toute l'histoire de ces mêlées est une blague. Jamais ces mêlées n'a été... fécondée par Zeus, c'est impossible. Elle a brûlé. Oh ben, elle a brûlé sans doute dans un incendie, elle a laissé le gaz allumé, ou n'importe quoi. Le bon sens rationnel. Refus de ce niveau du divin. Et une piété qui est la piété ordinaire et commune. Alors ces femmes, elles deviennent folles. Elles quittent tout, elles s'en vont des maisons, elles laissent leurs enfants, ou elles les prennent sur les bras, et elles partent dans la montagne, sur le Citeron, près de Thèbes. Et là, alors, elles se livrent à des activités de type ménadique. Elles ont des thyrses, c'est-à-dire des grandes branches de pin avec une branche de pin, un bout de pin au bout. Elles frappent la terre, le vin jaillit. Et les paysans qui voient ça n'en reviennent pas. Ils sont à la fois effrayés et admiratifs parce que elles ont l'air heureuses. Elles ont pris un tas de petits animaux sauvages, des petits léopards, tout ce que vous voulez, des renards, et elles les nourrissent au sein et les bêtes ne leur font aucun mal. Pendant un certain temps, ce monde fantasmatique est celui dans lequel elles vivent. Ce monde peut être illusoire, mais pour elles, c'est la réalité. Alors, naturellement, Pinté, où sont les femmes? On lui dit, ça va pas du tout. Il prend d'abord les femmes lydiennes, il les met en prison. Et il envoie ses troupes, son armée d'hommes.
Contre les femmes qui sont sur le Citeron.
Rattraper dans toutes les femmes dans le Citeron et le ramener. Alors, les femmes, elles sont libérées. Les femmes dans le Citeron, son armée revient, ils sont tous, il y a des morts, où ils sont tous mutilés, ils sont là comme des invalides de guerre, ils reviennent, c'est pas brillant, qu'est-ce qui s'est passé? Et ils racontent. Alors, on les a vus, elles étaient en train de vaquer, on les a cernés, et on a essayé de les attraper, et à ce moment-là, délire, mais le délire furieux, un délire au fond dionysiaque, mais qui a un aspect guerrier d'Arès. Elles ont exterminé tout ce qu'elles trouvaient devant eux. Les vaches et les hommes. Et ils reviennent tous sanguinolents. La victoire des femmes sur les hommes. La victoire de celles qui étaient dans le monde de la nature, sur les hommes, sur les urbains. Alors, Pinté est épouvanté, il fait arrêter le prêtre de Dionysos, il le met en prison, les murs de la prison s'écroulent, le palais flambe, et Pinté ne sait plus à quel saint se vouer. Et alors voilà, ils sont là tous les deux, l'un en face de l'autre.
Et Pinté et Dionysos.
Pinté et Dionysos. Le roi, grec, le même, le dieu,
le métèque,
de partout, l'ailleurs, l'au-delà. Et alors, avec un art de sophiste. Dionysos commence à parler avec Pinté, et Pinté, peu à peu, va se fendiller, sa carapace va se fendiller, et surtout, il lui demande à un moment donné, « Mais toi, ce dieu dont tu parles, tu l'as vu ?»« Oui, mais tu l'as vu, c'était la nuit, en rêve. »« Non, je l'ai vu le jour. » »« Et qu'est-ce que, comment ?» Et il lui répond, « Je l'ai vu qui me voyait, je l'ai regardé me regardant. » L'idée que le dieu, là, est un dieu pas comme les autres, c'est un dieu de la réciprocité, où l'homme et lui entrent en relation. Je l'ai vu, et alors, là, tout d'un coup, il y a un aspect de Pinté qui se révèle. Lui aussi, il veut voir, il craque ce monde féminin qu'il imagine plein de luxure, ce qu'il n'est pas. Il ne se livre pas à des ébats sexuels du tout. Mais lui le pense. Et derrière sa carapace d'homme comme il faut, de rigoriste, il y a tout d'un coup, et si je voyais ça, envie de voir, et bien alors, il s'habille comme Dionysos. Il devient en quelque sorte le double de Dionysos. Dionysos l'amène dans le bois, le fait monter en haut d'un arbre pour guetter, pour être un voyeur. Comme si le voyeur, celui qui se contente de voir de l'extérieur qui épie, pouvait être comparé à cette intimité visuelle qui unit le dieu et son adepte lorsqu'il y a la transe et qui se trouve en quelque sorte face à face. Le résultat, il est affreux. Les Bacchantes le voient, elles font ployer l'arbre, elles s'emparent de lui et elles le déchirent en morceaux.
Sa mère en particulier.
En particulier sa mère. Et elle coupe la tête, elle s'imagine, voilà le dieu de l'illusion, de la folie, elle s'imagine que la tête de son enfant, qu'elle va piquer sur le haut de son tirse, que c'est une tête de petit lionceau ou de petit bœuf. Alors, elle est là triomphante et elle se promène avec ça au bout de son tirse.
Elle est tellement folle qu'elle ne reconnaît pas même la chair de sa chair.
Elle ne reconnaît rien. Elle est dans un état de délire, mais d'un délire dionysiaque qui, cette fois, n'est pas le vrai délire dionysiaque. Jamais ces Ménades n'auraient fait ça. Elle vivait, elle, dans un âge d'or, dans un paradis. Et là, c'est l'enfer. C'est l'autre face du délire.
De la folie.
Ça, de la folie. Alors elle se promène avec ça et elle arrive, elle retrouve le vieux Cadmos, son grand-père. Elle retrouve aussi Tirésias, qui est là, deux vieux qui ont voulu essayer de danser avec les femmes. Et Cadmos, peu à peu, lui fait reprendre ses esprits, la fait sortir de son délire en lui disant, parce qu'elle arrive en disant, « Regarde, je suis la meilleure chasseresse, je suis plus forte que les hommes, regarde les résultats de ma chasse, aucun homme de Thèbes n'aurait fait si bien que moi. » Et peu à peu, il lui dit, « Tu caresses sa toison, elle le caresse, et peu à peu, elle s'en aperçoit. » Et quelle est, au fond, la morale de cette histoire ? C'est que ce dieu, qui n'est pas comme les autres, qui a des facettes, qui est le dieu du délire, et d'un délire qui peut plonger dans l'horreur, et qui peut aussi vous révéler une espèce de, dans un état mystique, le divin, par un contact personnel, qui est tout cela, qui est le dieu de l'ailleurs, et qui veut être reconnu ici. Ce dieu qui est l'autre, eh bien, on voit que lorsque, dans une cité, on croit pouvoir se passer de l'autre sous toutes ses formes, qu'on le repousse, que le féminin, l'étranger, l'asiatique, le barbare, l'illusion d'une certaine façon, c'est le mal. À ce moment-là, c'est celui qui représente l'identité, la sûreté, le même, qui devient l'autre, qui devient un monstre. De chasser l'autre complètement de soi et de la cité, c'est devenir soi-même, d'une altérité complète, devenir la tête de la Gorgone. Ces femmes de Thèbes, ces braves bourgeoises qui disaient « Mais non, Dionysos et ces Lydiennes, qu'est-ce que c'est que ça ? Regardez ça !» Eh bien, elles sont devenues le masque même de l'autre, des Gorgones.
Au fond, si on ne fait pas de place à la folie en soi, c'est la folie qui prend la place, c'est ça que ça veut dire ?
La folie, pas toutes les folies, mais un aspect. Si on n'accepte pas l'autre, les Grecs ont accepté l'autre, parce que Dionysos, c'est ce qu'il représente, il l'installe au cœur de la cité, le théâtre, et les temples de Dionysos, ils font les thias féminins qu'ils acceptent et qui peuvent même représenter la ville. Si on ne fait pas une place dans la cité même, dans la vie politique, à ce qui est différent de ce qui est la norme, si on n'accepte pas de temps en temps qu'il y a le comos, qu'il y ait le banquet, qu'il y ait la représentation théâtrale, l'illusion, si on ne fait pas une place à ça, si on ne ménage pas un espace pour l'autre, alors l'autre vous envahit et soi-même on devient un monstre.
À votre sens, Jean-Pierre Vernant, notre société d'aujourd'hui sait-elle faire assez de place à l'autre, à ce qui brouille les catégories sociales, politiques qu'elle met elle-même en place?
Bon, la réponse est non, bien sûr. Non, je pense, quand je dis ces choses sur Dionysos, je pense par exemple à l'Allemagne, à ce pays si cultivé, si civilisé, bon, et tout d'un coup qui sombre dans quelque chose que d'une certaine façon la tragédie évoque, la monstruosité, par refus de l'autre, par affirmation qu'il ne peut pas y avoir d'autres hommes qui soient vraiment des hommes que ceux qui appartiennent à telle lignée indo-européenne ou germanique ou n'importe quoi.
Parler de l'Allemagne nazie.
Bien sûr, je parle de l'Allemagne nazie, bien sûr. Et même chez nous, je sais bien à quel point il y a cette difficulté d'admettre qu'il peut y avoir des gens différents, de l'admettre dans leur façon d'être, de manger. Et pour savoir qui on est et mesurer également de façon correcte sa propre identité, il faut être capable de regarder l'autre, non pas avec un œil de rejet et d'hostilité, mais un œil de sympathie et de compréhension.